Donc, du côté du Venezuela, aussi bien que du côté de Cuba, j'espère qu'ils vont profiter de la nouvelle atmosphère diplomatique qui va être créée avec l'administration Biden-Harris pour profiter d'améliorer la gouvernance de leur propre pays.
Alors, et pour nous terminer, sur une note qui est plus sensible toujours, moi-même toujours dit dans l'émission ça, nous, pays, avant le pouvoir, eh bien, faut que moi, je dis une nouvelle que nous, monde qui veut mes pays, les défendre. Et l'orga de l'ancien secrétaire des États-Unis, et sous un gouvernement républicain, eh bien, imaginez-vous, il dit que Foucault, il a destitué le malade, le maniaque que il Donald Trump là, destitué. Alors, on a parlé de Colin Powell, un noir, même avec nous. Non seulement il n'a pas voté pour lui, et la gueule, il était bail appui à Joe Biden et Kamala Harris.
Oui, parce que lorsque Colin Powell dit ça, c'est parce que d'après moi-même, il y a des informations un peu plus fines que vous-même, moi-même.
Mais
si n'a pas observé de loin et d'une manière perspicace, Raymond, Donald Trump est déjà destitué au moment où l'on se parle. Il ne reste que son corps, sa présence physique à la Maison-Blanche. Lorsque Twitter, lorsque Facebook, lorsque
Instagram fermer compte,
de fermer le compte de l'occupant de la Maison-Blanche, il n'y a plus d'occupant à la Maison-Blanche. Lorsque Mike Pence, son vice-président, lui a répondu, Monsieur le Président, je n'ai pas l'autorité, je n'ai pas la légitimité d'interrompre le processus de confirmation et de validation de l'élection de Joe Biden, Donald Trump, si c'était dans un pays du tiers-monde, il y aurait déjà un avion ou un hélicoptère qu'il aurait déjà transporté ailleurs.
Alors,
on a compris trois choses très rapidement, si tu me permets, c'est que ce qui s'est passé pendant toute la présidence de Donald Trump, il y a trois choses, Raymond, qu'il faut retenir. Donald Trump est trop faible pour détruire la démocratie américaine. Donald Trump a fait un tort immense
à la plus grande démocratie.
Exactement. Donald Trump a délégitimé la présidence, déconsidéré la présidence. Et enfin, Donald Trump est en train de saboter la marque de commerce du Parti républicain. Peut-être il a en tête de fonder un autre parti, mais il est en train d'enterrer ce qui restait des dignités au sein du Parti républicain.
Au moins, Ted Cruz va le suivre.
C'est une plongée vers l'abîme. C'est une plongée abyssale vers le néant en ce qui me concerne.
C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. C'est très enrichissant. Merci et bonne fin de semaine, mon cher.
Merci aussi, Raymond, et merci à l'équipe également.
À la prochaine. Nous pourrons faire une petite pause et puis nous retourner tout à l'heure.
Igual prêt pour démocratie, levez mes doigts dans l'air, viens expliquer ça, ça veut dire, parce que mot démocratie, c'est un engagement pour peuple qui veut vivre dans le monde, fort aimer patrie, travailler pour le bien, respecter la loi appliquée. Respecter la loi appliquée.
malgré fausse publicité, l'autre nation fait sous dos nous. Nous avons courage, en pile maturité. Et nous connaissons qui ça nous voulait. D'après une analyse, blanc yon saisi un pays noir qui est loi démocrate. Vous pensez que nous avons rêvé à une mission impossible. Malgré colon blanc, les divisés pour ne pas jamais ça. Yo toujours dit race noire, pas guignon. Peuple haïtien en avant. Déjà, en mille vies sacrifiées pour ça. Yo passé dans bêtise, yo peuple qui en vit vivre. Ya, ya la lé lé lo lé 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 la. Lé lo lé joua la.
Hey!
Où qui ça?
Hey!
Ça qui passe?
Hey!
À l'ouest. Avec méchanceté, ça va j'en fais la vie au monde changer. Si nous t'arrêtons mes pays marcher, on nous éliminer parti pris, appliquer la loi correctement. Chaque monde supposé respecter l'ordre.
Yala et la et la la,
oh oh,
yala et la et la la,
hey, hey.
Yala et la et la la,
yala et la la,
yala et la et la la,
yala et la et la la,
oh oh, yala et la et la la.
Vous comprenez, c'est pas du temps. Vous travaillez en pile, en pile, en pile. Mes amis, moi.
gen le gran plezir pou m resevwa nan emisyon samedi midi inter 9 janvye 2021 e Mires Montréal Noir, Christine Black, Mabjo, bonjour, koman ou ye?
Mabboule, monsieur Laurent. Merci de me recevoir à votre émission.
Mabboule. Bon. Alors, comment va l'arrondissement de Montréal-Nord, madame la mairesse, avec la question de COVID-19 oui. là, nous connaissons capé ravager en fait le monde et parlez-nous un peu de la situation de Montréal-Nord.
Oui, en fait, je vous dirais que l'année 2020 a été une année particulièrement difficile pour nous. Hein. On sait, Montréal-Nord a été frappé de plein fouet par la COVID-19. Et en même temps, je vous dirais que ça a été un exercice pour tout l'arrondissement et pour tous les partenaires de faire face à cette crise-là. Et on a vraiment démontré, tout le monde ensemble, une mobilisation exemplaire. Et ça, je tiens vraiment à le souligner sur les ondes, parce que ce soit pour aider la population, distribuer des masques. D'ailleurs, les masques, les partenaires communautaires, la ville et tout le monde en a distribué tout près de 200 000 dans l'arrondissement. Donc, c'est énorme. Et il y a aussi beaucoup de travail, que ce soit au niveau de la sécurité alimentaire, que de la santé publique, du soutien psychologique qui a été fait. Donc, vraiment, tout Montréal-Nord a été très mobilisé pour aider la population et aussi les entreprises. Il y a aussi un plan de relance pour les entreprises qui a été mis en place. Donc, ça a été un exercice fort laborieux parce qu'on était pris de court. C'était surtout la première vague. Veux pas, personne ne savait comment ça allait se passer. On était encore dans les débuts de dépistage et tout ça. Donc, c'était de mettre tout ça en place pour l'arrondissement, pour la population, de s'assurer que le message se passe finalement et que les gens puissent avoir cette information-là. Et c'était crucial. Et pour moi, en fait, comme mairesse, mon rôle devenait central, c'est-à-dire décider de prendre, ce qu'on a décidé, c'est de prendre soin de notre monde. C'est ça que moi, je voulais. Et de mettre en place les structures pour favoriser tout ce qui était l'interconnexion entre les différents partenaires, la communication, qu'elle soit bonne, qu'on puisse s'assurer d'échapper le moins possible de besoins, de personnes qui étaient dans le besoin. Donc, ça a été une année fort difficile, mais en même temps, Montréal-Nord est un quartier, vous le savez bien, M. Laurent, où il y a une très grande résilience et les gens font face à plusieurs crises, malheureusement, depuis quelques années. Et à chaque fois, on y fait face et on apprend et on grandit à l'intérieur de ça. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a évolué l'an passé. C'est sûr qu'actuellement, avec la nouvelle année qui démarre, on le sait, on le voit bien avec la pandémie. On est dans la deuxième vague depuis déjà plusieurs semaines. Et des nouvelles mesures, en fait, qui sont mises en place, entre autres, par le gouvernement. On parle justement du couvre-feu qui va être mis en place dès ce samedi, finalement, aujourd'hui. Donc, à partir de 20h jusqu'à 5h le matin, on peut pas être à l'extérieur du domicile. Il y a quelques exceptions, mais c'est vraiment très circonscrit par la loi. Donc, dans ce contexte-là, la collaboration de tout le monde est nécessaire. Et vos auditeurs, je suis certaine qu'ils sont très empathique, comme je le suis, comme toutes nos équipes le sont en arrondissement par rapport à tous les employés du domaine de la santé. On le sait, il y a beaucoup d'infirmières auxiliaires, de préposés dans la communauté. Et c'est quelque chose de très, très important pour nous de s'assurer de les soutenir là-dedans et tous les services essentiels parce que il y a énormément de travailleurs et il faut prendre soin de ces gens-là. Il faut s'assurer qu'on arrive à bout de ce virus-là finalement.
Bon, alors, parlons du bilan et de 2020. Et je sais que ça n'a pas été facile. Il y a 3 arrondissements de la région de Montréal qui étaient quand même dans le rouge, que je pourrais dire. C'était Montréal-Nord, Villeray-Saint-Michel, ainsi que Rivière-des-Prairies. Alors, si on parle maintenant, est-ce que la situation est toujours et catastrophique, ou du moins, et parlez-nous un peu de la situation actuelle, et Madame la mairesse.
Oui, bien, en fait, la situation, un peu comme on le vit partout au Québec, elle est difficile à Montréal-Nord. On a eu des chiffres dernièrement, entre autres, où on voyait que le virus était vraiment très, très virulent un peu partout dans l'arrondissement. Mais par contre, je vous dirais que c'est plutôt récent, là, ça date de la fin du mois de décembre, parce que jusque-là, on avait quand même, je dirais, tenu le coup, c'est-à-dire que les mesures qu'on avait mises au printemps, que ce soit justement le port du masque, que ce soit les trousses sanitaires là, qui avaient été données aux différentes entreprises, etc., on fait en sorte que les Nord-Montréalais ont pris très au sérieux cette situation-là. Et même, je me souviens qu'au printemps, les citoyens de Montréal et même du Québec portaient très, très peu le masque, mais les gens de Montréal-Nord portaient beaucoup le masque à l'extérieur. On le voyait très bien. Donc, dans ce contexte-là, on a été relativement épargnés jusqu'au mois de décembre. Mais depuis le mois de décembre, on le voit bien, là, le virus est très, très présent partout. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que les nouvelles mesures ont été mises en place. Donc, dans ce contexte-là, un peu comme partout, la situation, elle est difficile. Puis, il faut rappeler aux gens que malgré le fait qu'il y a un vaccin, que la campagne de vaccination est en démarrage, le virus est toujours là, puis la majorité de la population n'est pas vaccinée. Donc, raison de plus de vraiment faire attention, c'est-à-dire garder les 2 mètres, rester à la maison, dans le fond, là, c'est vraiment la meilleure chose. Et quand on en sortit, respecter les 2 mètres, mettre un couvre-visage et puis voir le moins de personnes possible, c'est vraiment la clé là, pour arriver à se protéger. Parce que je tiens à le rappeler, il y a des gens qui décèdent, il y a des gens qui sont très malades avec ce virus. Et il faut vraiment prendre soin de notre monde, hein? Fait qu'on prenne soin chacun d'entre nous. Et puis, c'est la règle à suivre. Bon, pour l'instant, c'est encore difficile et ça continue de l'être. Donc, on va souhaiter qu'avec les nouvelles mesures, on voit une diminution des cas dans les prochaines semaines.
Ça va bien aller, comme dit le premier ministre. Hein?
C'est ça. C'est ce qu'on souhaite, hein? Parce que de voir les personnes qui sont malades et même les gens qui travaillent dans le domaine de la santé, c'est très difficile pour eux. Et puis, je pense que il faut penser à eux aussi à l'intérieur de ça. Ils tiennent le système de santé à bout de bras en ce moment. Et puis, on est tous responsables, à quelque part, de la suite des choses.
Madame la mairesse, avant de parler à un dossier qui dure hein, depuis 2016, j'aimerais quand même vous en donner un petit peu d'informations sur un groupe de jeunesse que vous êtes en train d'impliquer à Montréal-Nord, dans votre arrondissement. Parlez-nous de ce groupe hein, de jeunes.
Je crois que vous me parlez du Conseil jeunesse. Hein?
C'est bien ça.
C'est ça, exactement. Ben, en fait, ça se trouve être une quinzaine de jeunes qu'on fait, c'est le Conseil jeunesse de Montréal-Nord. Montréal avait déjà un Conseil jeunesse pour toute la grande ville, mais de notre côté, à Montréal-Nord, on a décidé, c'est un engagement qu'on avait pris lors de la dernière campagne, de mettre en place un conseil jeunesse des jeunes de Montréal-Nord. Et on a fait un appel à candidature il y a 2 ans déjà, donc en 2018, le conseil a été créé. Donc, on a eu une première cohorte de 15 jeunes qui ont été là pendant les 2 ans. Ces jeunes-là ont travaillé très fort, entre autres, même dans la COVID, ils ont été très présents sur les différentes réunions qu'on avait. Ils ont représenté l'arrondissement sur différentes comités, dans des événements, etc., qui représentaient la jeunesse. Donc, ça a été vraiment un travail ardu qu'ils ont fait. Ils ont d'ailleurs émis leur premier avis sur, entre autres, la suite de la Maison culturelle et communautaire avec le nouveau pavillon qu'elle a ouvert. Donc, un avis, c'est important. C'est un travail qui a été fait en fond, de fond, pour faire en sorte de ramener les préoccupations des jeunes. Et pour nous, c'était très important d'entendre ce que les jeunes avaient à dire. Et pas plus tard que cet automne, on est allé dans un deuxième blitz de candidater à la candidature, parce que certains candidats étaient là depuis 2 ans et, bon, soit certains devaient quitter ou avaient d'autres engagements. Donc, dans ce contexte-là, il y a eu un renouvellement qui s'est fait. Donc, il y a eu 6 nouveaux candidats qui ont été nommés au conseil du mois de décembre dernier et puis qui vont poursuivre le travail, dans le fond, qui est déjà entamé par le conseil. Donc, pour nous, c'est une excellente nouvelle et le conseil est bien en selle, est bien parti. Donc, ça devient, comme vous dites, M. Laurent, des leaders de notre communauté, hein, des jeunes qui s'intéressent à l'actualité, qui s'intéressent à la sphère publique et surtout qui veulent contribuer et faire une différence dans l'arrondissement. Et je vous dirais que de mon côté, j'ai eu la chance de vivre les deux vagues d'entrevues, donc autant en 2018 que cette année, et bien, en fait, à la fin de l'année 2020. Et je voudrais qu'on ait des jeunes à Montréal-Nord extrêmement allumés, très mobilisés, qui veulent vraiment contribuer à Montréal-Nord et surtout qui aiment leur quartier, qui en sont fiers. Donc, pour moi, c'est c'est du bonbon, hein. On est toujours très heureux de voir la relève qui est là et qui nous amène finalement à pousser encore plus nos politiques ou nos projets plus loin parce que eux autres, ils nous encouragent en ce sens-là. Donc vraiment, c'est une très, très belle nouvelle et c'est un groupe qui est très dynamique et qu'on apprécie beaucoup de travailler avec eux.
Alors, et parlons de l'évolution du lieu de culte à Montréal-Nord. Je sais que c'est un dossier qui traîne depuis des années. Alors, est-ce qu'il y a de l'évolution ou bien est-ce que ça traîne encore?
Mais en fait, je vous dirais que c'est un dossier, comme vous le dites, qui est en cours depuis plusieurs années. Il faut faire un petit rappel. En 2016, lors de mon arrivée à l'arrondissement à la mairie, on avait commencé un dialogue avec les différents responsables des lieux de culte. Et puis, ce qui en était ressorti, c'est que, bon, il y avait eu quelques années où ça avait été un peu plus difficile. Et puis, on voulait rétablir cette communication-là, cette collaboration, dans un contexte où nous, on se retrouvait un peu en porte-à-faux en arrondissement parce que plusieurs lieux de culte n'avaient pas de... En fait, n'étaient pas réglementaires. Donc, il y avait eu des plaintes de la part des citoyens qui s'étaient rendus jusqu'à l'Ombudsman de Montréal. Et l'Ombudsman nous demandait de littéralement fermer ces endroits-là en disant, mais ils n'ont pas leur permis, fermez-les. Alors, c'est sûr que dans ce contexte-là, nous, on sait pour moi, c'est très précieux le travail qui était fait dans ces endroits-là et tout l'accompagnement pour les familles qui était fait par, entre autres, les pasteurs, par les imams des mosquées avec les groupes, des différents groupes. Donc, dans ce contexte-là, on s'est assis tout le monde ensemble puis on a décidé de démarrer une démarche de collaboration qui allait mener à, justement, la régularisation des groupes et les amener, finalement, à trouver des lieux qui correspondaient au zonage, à la réglementation qui est en cours. Et je vous dirais que dans les dernières années, ça a beaucoup cheminé. On a quand même plus d'une soixantaine de lieux de culte en Montréal-Nord. C'est beaucoup pour un petit territoire comme le nôtre. Mais quelques-uns, donc environ une dizaine, n'étaient pas réglementaires. Donc, le travail qui s'est fait, d'autres pouvaient l'être. Donc, ils ont commencé à travailler avec nos équipes. Et je vous dirais que le travail chemine grandement. Là, on est dans un moment un peu plus crucial où ils doivent être conformes. Hein. Il y a des dates limites au mois de janvier. Et c'est sûr que quand on parle de tous les éléments réglementaires, de règles, c'est sûr que le cadre est très clair. Hein. Et la loi nous dicte comment on doit faire les choses. Alors, on est dans un moment où vraiment la collaboration de tous est nécessaire. Et puis, certains, malheureusement, ont attendu longtemps. Ben, ça fait déjà quand même presque 5 ans que le processus était en cours, qu'on est en dialogue et tout. Donc, vraiment, actuellement, il est minuit moins une, qu'il faut agir maintenant. Et puis, le contexte rend les choses un peu plus complexes aussi, mais on demande vraiment à tout le monde de collaborer dans ce contexte-là, puis d'aller de l'avant avec ce volet-là. Et s'ils ne sont pas réglementaires, mais ultimement, ils vont devoir fermer à l'endroit où ils sont. C'est une question d'équité aussi envers tous les groupes.
Parce qu'il y en a qui répond aux exigences de la municipalité, et puis il y en a d'autres qui ne veulent pas.
Ben malheureusement, il y a certains qui sont plus récalcitrants ou du moins qui étirent les choses, mais en même temps, plus ils étirent, moins il y a de locaux, parce que au risque de me répéter, puis je l'ai dit à certains, il y a des gens de l'extérieur qui viennent aussi. Donc, nous, ce qu'on souhaitait, c'est d'abord qu'il y ait les gens de chez nous, de Montréal-Nord, qui étaient déjà installés, puissent avoir accès à des locaux. Mais là, ce qu'on remarque, c'est que oui, il y a des gens qui étaient à Montréal-Nord qui se réorganisent, qui se replacent à des endroits qui sont réglementaires, mais aussi des gens de l'extérieur qui s'intègrent dans l'arrondissement et qui veulent justement s'y implanter, qui correspondent à tous les critères. Donc, dans ce contexte-là, nous, on n'a pas le choix parce que s'il coche partout, correct, ben on doit aller de l'avant. Donc, c'est vraiment tout un contexte qui est pas simple et dans lequel vraiment tout le monde doit collaborer. C'est là le défi. Et puis, je vous dirais que Montréal-Nord, comme je le disais tantôt, c'est un petit territoire et certains veulent des grands locaux où ils ont des visées d'expansion, mais malheureusement, notre arrondissement est petit et les locaux sont relativement limités. Donc, c'est sûr que ça devient très complexe. Et puis, malheureusement, là, il faut aller de l'avant, puis il faut arriver à clore ces étapes-là, puis cette démarche-là ensemble.
Alors, si je comprends bien, et Madame la mairesse, c'est un cri d'alarme que vous lancez auprès de ces gens-là qui sont concernés, puis je suis certain qu'il y en a beaucoup qui écoutent Samedi Midi Inter.
Absolument, absolument. Puis, vous savez, puis on se l'est déjà dit, Raymond, le travail qui est fait est très important dans les lieux, puis surtout à l'heure actuelle où on sait que les gens sont à la maison, plusieurs sont insécures, ils ont besoin d'accompagnement, puis parfois l'accompagnement spirituel pour certains permet de justement traverser des moments comme on vit actuellement. Donc là, l'appel est à la collaboration et que là, il fallait s'organiser et là, il faut le faire. Nos équipes sont là, sont disponibles et puis ceux qui ne le sont pas, malheureusement, vont se retrouver dans un contexte où ils vont être en... Ils vont être non réglementaires et nous, on va devoir sanctionner, malheureusement.
Alors, je crois que le message est passé. C'est tout le temps qu'on peut vous accorder, Madame la mairesse. Je vous souhaite du bon travail et à la prochaine. Est-ce que vous avez un dernier message à lancer?
Ben oui, en fait, je vous souhaite à vous, de même qu'à vos auditeurs, une très belle année, hein, avec beaucoup de succès, du bonheur, mais surtout de la santé, hein.
Absolument,
la santé est au cœur de notre vie et on doit prendre soin de nous et des gens qui nous entourent. Donc, vraiment, autant à vous qu'à tous vos auditeurs, une très bonne année et une bonne 32e année dans votre cas pour l'émission qui se poursuit malgré tout. Hein. Peu importe ce qui se passe, Raymond est toujours là pour nous. Donc, merci de poursuivre votre travail.
Ça a été un plaisir de vous recevoir comme d'habitude et bonne santé également et à la prochaine.
À la prochaine, tes voeux partagés. À bientôt.
Merci. Bye-bye. C'était Madame Christine Black, la mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord. Une petite pause et je vous reviens tout de suite après.
Bye.
Alors, et nous avons avec nous le docteur Thomas Lalim, et un habitué de l'émission de samedi midi inter. On a profité l'occasion, docteur Lalim, pour nous souhaiter une bonne et heureuse année, même là nous connaissons bonne et non certain sens bon ici, mais bon, la caille, c'est pas facile.
Bonsoir Laurent, bonsoir tout auditeur, tout auditrice capteur de nous. Bonne année à vous-même tout et bonne année à tout auditeur, auditrice capteur de l'émission. Effectivement, j'en dis même bon ici, tout c'est pas facile. C'est peut-être chaque côté où il y a fait par eux. Et ça que c'est pas facile pour mon en Haïti. Hein. C'est pas ça que c'est pas facile ici, mais avec. Là, c'est même pas confinement encore, mais on nous même passé dans couvre-feu. Couvre-feu dans un pays démocratique, c'est quasiment une décision extrême. Donc, nous avons le droit de dire que dans tous les deux cas, ici ou en Haïti, l'année 2021 ne commence pas bien. Bon, peut-être que vers la fin d'un pays développé, avec question vaccin, donc quand même un lieu d'histoire qui est peut-être différent d'Haïti, mais dans les deux cas, et il n'y a pas commencé facile.
Et nous sommes capables même de faire un petit coup de pied, bon, et notre pays est voisin. Alors, l'aime parler de notre pays voisin. On a parlé des États-Unis, le Canada, c'est deux pays voisins. Non seulement il y a une pandémie, mais nous, il y a un bagage que personne n'a jamais pensé, l'insurrection et qui fait passer maintenant du côté des États-Unis. Et ça a créé la plus grande démocratie du monde.
Effectivement, Raymond, le regard de ce qui s'est passé jeudi aux États-Unis, il y a une réaction moi, qui résume très bien. En Haïti, on a dit brigandage, ça qui passe aux États-Unis. Hein, c'est le président George Bush qui dit c'est exactement comme ça qu'ils ont contesté le résultat de l'élection dans le pays bananier. En fait, dans la République bananière, en fait, mon États-Unis, ou bien mon pays développé, ou bien mes qualifiés, si pays tiers mondiaux, il y a un genre de problème, ça. Mais, quelque part, au Tagendo, en dépit de ça qui passe pendant la journée, hein, au Tagendo a dit tout est bien, qui finit bien, dans le sens que, dans la soirée même, en fait, c'est la soirée reprendre dans la capitale là. Ils ont validé quand même le résultat de l'élection du nouveau président Biden. Et je ne sais pas si c'est la première fois, peut-être depuis le président Slien, que le président Donald Trump a privé vote et que M. Di lui admet finalement qu'il peut dire l'élection, hein, qu'on est prêt pour transition en douceur. Donc là, quelque part, c'est. Le Tagendo a dit que page ça, son page qui tournait. Page tournée dans le sens que pour le nouveau président Biden commencer à partir de 20 janvier. Mais des gars qui fait dans le parti républicain, ou bien des gars qui fait dans la société en lui-même, son bagage a pris peut-être des décennies avant ça réparer, parce que le gars des gens. Société en ligne polarisée, on fait une monsieur avec gros âme à la main, et pour ça, spectacle ça nous est hier là, l'éclat du gros malaise, que c'est pas. On pas l'impression que le président Biden, même le monsieur a annoncé qu'il va le faire téléphone, non, sans ça, mais on pas l'impression que. Seulement le président 4 monsieur a apaisé. Toute cause qui fait sacrifier et arriver, en fait. Mais quand il y a ça, ça ne peut pas se faire voisin, mais peut-être qu'on va nous garder, ça ne peut pas se faire voisin. Il faut nous garder, puis tout.
Voilà, quand
même. Cette lagaille, pardon, ça qui intéresse nous. Et nous-mêmes, pour nous garder, pour commencer avec un couvre-feu ici au Québec, donc ce n'est pas mes affaires. Donc ça veut dire que. COVID là pour qu'on derrière nous, même genre, en pile, on était pensé que à partir du moment que on commençait à vacciner, et mon qui était vulnérable, à partir du moment que le vaccin est disponible, il y a un peu de monde qui était pensé que c'est à cause de cette formalité. Mais l'estimation que ça me tendait, c'est que c'est pour le mois de septembre, en fait, que vous pensez que vous avez vacciné une quantité de monde qui peut permettre que nous avons certaines quiétudes d'esprit, parce que apparemment, d'après l'estimation, il faut qu'on arrive à vacciner jusqu'à 80% de la population. Hein, pour qu'on assure que nous, ça, moi, mon spécialiste dans le domaine, il est en forme d'immunisation collective qui vous fait que mon APCA commence à vaquer l'activité librement. Évidemment, le nom de vaquer l'activité librement, une série d'activités qui a changé l'impression, une fois qu'on a parlé de ça dans l'émission déjà, la série d'activités qui a changé une fois pour toutes. Donc, tout le travail là, son bagage qui a pris, même si on va continuer à faire le travail tous les jours, il y a une entreprise, notamment entreprise privée, qui a continué à encourager le télétravail, parce que l'on fait le conseil, on va pas obligé dans. Il n'est pas obligé de louer un gros bâtiment. Et si il y a des gens qui sont obligés de sous place, il y a sous place. Mais si il y a des gens qui travaillent la caillou, ils travaillent la caillou. Et là, ils font comme ça, ils permettent de diminuer le coût de fonctionnement. Il y en a d'autres qui permettent de diminuer tout ce qui est un peu de dirigeants intéressés à télétravail. C'est que il y a longtemps, genre, par exemple, pour quitter Montréal aux heures de pointe, c'était quasiment l'enfer. Et bien, dans la période côté qui a pile télétravail, dans la période côté qui a confinement, le monde circulait facile sur toute autoroute à n'importe qui l'est. Donc, les conséquences, ça gagne, ou bien avantage, ça gagne, si nous regardons du côté positif, c'est que il y a moins de pollution, en fait. Et question pollution et question embouteillage, ça, son problème, il a été résolu longtemps, qu'on n'a pas pu à résoudre. Donc, ça vient faire que, il y a un bon côté tout dans ce qui a passé, hein. Sinon, pas seulement garder, et quand c'est des gens qui mourent, ou bien question couvre-feu, question et confinement, les gens autorités sont annoncés là.
Mais en même temps, tout, et docteur et Lalim, il faut que nous soulignions au niveau de l'économie, eh bien, nous sommes capables de dire que le Canada, il mange un gros coup.
Oui, nous devons dire ça. Il y a une conséquence. En fait, le premier fait passé, c'est que. Ou pratiquement dans le premier confinement, c'est environ 40% de l'économie qui était fermée complètement. Et là, il dit fermé, il y en a. Il y a un exemple sur le secteur aérien, par exemple. Avion quasiment pas de voler du tout. Donc, le secteur aérien, c'était arrêt complet. Et là, le secteur, tout le secteur qui dépend du secteur aérien, c'était à l'arrêt tout. Donc, là, pour question touriste, là, pour question hôtellerie, là, pour question, là, pour question restauration à un degré moindre. Tout ce que ça a été très affecté. Et ma regarde les données économiques qui sont sorties, c'est que le fait que tu as arrêté ça, ça a fait un gros taux de chômage qui t'a avoisiné 17% au mois d'avril, la période premier confinement au Canada. Mais la bonne nouvelle, c'était que dans le mois qui s'est passé, notamment novembre, décembre, donc, il commence presque à récupérer tout emploi qui était perdu dans le premier confinement. Bon, malheureusement, il y a un deuxième confinement. Mais le deuxième confinement, ça, au Québec, ou bien dans quelques autres provinces dans le Canada, il n'est pas aussi catastrophique que le premier confinement, parce que, je veux dire, le monde a une idée de forme d'adaptation à confinement, qui fait que tout bagage n'est pas forcément fermé vraiment. Par exemple, nous sommes parlé de télétravail tout à l'heure. Le premier confinement, mon yogot kokon ki sa yot apra le fè. Je dis là, télétravail, en pile entreprise, notamment entreprise, en fait, institutions publiques, ils ont toutes expérimenté télétravail là, et avec de bons résultats. Je ne sais pas quoi dire qu'un service public vraiment qui était dysfonctionnel, ou bien je dis là, qui est dysfonctionnel, malgré l'employeur a fait télétravail, sauf ça qui vient comme préoccupation, c'est dans ce en médical là, côté gon surcharge, mais dans l'autre secteur, ça fonctionnait plus ou moins. Et même dans le secteur médical là, je disais là, ouais, mais on y a fait télémédecine. Et télémédecine là, moi, bien, et même, c'est pas qu'au symbol, j'ai besoin de faire test routine, pas besoin de faire du 2-3 heures de temps dans une clinique à temps en médecin. Médecin, je dis, mais qu'il est. On m'a idée de qui le carré, mais je m'a obtenu appel li la carrément va de ma travail. Donc, tout ça, du point de vue économique, il y a joué en termes d'efficacité, de productivité, qui c'est des avantages qu'il y a pillé pour après Covid. Là. Mais toujours est-il que, confinement, même si c'est deuxième vague, là, a quand même un ralentissement et a quand même y a quelques mounes encore qui peuvent perdre du travail. Yo. Et c'est pas évident que le gouvernement a pas mesure pour bah, tout support financier qui a été bah, dans la première vague. Là. Donc, et c'est ça qu'il faut après, il y a un pile dans la province ou bien il y a un pile dans la province qui est en train de pour annoncer une deuxième vague dans le confinement. En fait. Et c'est ça qui a été pris toutes mesures tout pour essayer d'éviter la deuxième vague là, justement.
Alors, docteur Lalim, nous pourrions aller fonti parler de l'article que vous écrit le 5 de ce mois dans le Nouvelliste. Et ça qui est important, je crois que Gagnon, Roux et Kester, Roux Farel, qui est très connu, mon confrère, et côté que nous gagnons deux jours que nous sommes capables de prendre, le 1er janvier et le 2 janvier. On a commencé par le 1er janvier, côté que c'est une tradition, côté que recevoir le Premier ministre. Nous connaissons que Roux Farel, il y a une émission.
Le ministre des Finances, de préférence.
Le ministre des Finances, on doit se dire. Et le 2 janvier, en fait, c'est le gouverneur de la banque. Alors, on a commencé avec le 1er janvier, comment que ça se passe. On connaît que au très réactif dans la question SAEO, quand on parle de chiffres, quand c'est des économistes qui parlent.
Oui, et puis en plus, ça fait. C'est... Par exemple, pour question recevoir gouverneur, ça fait 26e année que vous faites entrevue ça. Et moi-même, de 2004 à 2008, époque où je suis dans le journal le matin, je travaille de très près à vous. C'est ça, c'est notre deux actrices pour sa page économie, journal le matin. Donc, j'en dis, moi, toujours suivre. Parce que l'avantage de l'émission, ça, c'est que. Ministre financement, c'est un coup de monsieur et un bilan financier que l'a fait de années qui sont passées. Hein. Et puis, et gouverneur lui-même, en fait, premier ministre font un bilan au niveau des finances publiques. Tandis que gouverneur lui-même lui font un bilan au niveau du secteur financier en tant que tel, banquier. Et je dis, on va, à chaque fois parler de banque, je dis, il faut garder coopérative et tout, il faut garder question maison de change, agent de change, toutes questions ça. Donc, dans deux émissions ça, effectivement, tout aspect ça a été parlé. Bon, sauf une bonne idée de premier avec le ministre financement, ça qui. Il y en a une première information pour mon capteur de noter, c'est que pour une deuxième année consécutive en Haïti, il y a un taux de croissance économique négatif. Parce que la croissance économique, là, on va pouvoir débattre très actuel. Ici, avec Covid, là, par exemple, on prévoit qu'à bien année, ça, dans les pays développés, au Canada, aux États-Unis, on baisse ou bien même un taux de croissance économique négatif. À peu près pour Haïti. La seule différence qu'il y a en Haïti, c'est qu'en Haïti, Covid n'a pas frappé nous autant que nous frappé Canada ou les États-Unis. Donc, ou pas qu'à dire, c'est COVID là qui fait que on gagne un résultat économique très précaire en Haïti pendant l'année ça. L'autre raison qu'il faut pas qu'à dire ça, c'est parce que déjà, année qui est passée, on était dans une première année de croissance économique négative, et ça a fortuné bien loin, juste là, il y a un coup d'État militaire en Haïti, le 30 septembre 1991, pour deux années consécutives de croissance économique négative. Le coup d'État militaire, là, c'était trois années. Donc, c'est une façon pour dire tout simplement que le résultat, performance économique, là, on a dit que catastrophique pour deux dernières années ça, en Haïti. Maintenant, en ce qui a trait à deuxième joueur pour gouverner à lui-même, bon phénomène qui passe dans l'année qui s'est passée en Haïti, que jusqu'au niveau, on a essayé de comprendre, et même l'autorité, on n'a pas l'impression qu'on finit trop comprendre ce qui est passé. C'est là pendant un mois septembre 2021, nous passons de 123 gouttes bon dollar à presque 60 gouttes bon dollar américains. Évidemment, tout ça fait dans un mois. Donc, dans un mois, ça veut dire qu'il n'y a pas de grand changement vraiment dans l'économie. Hein. Et tout le monde a posé cette question. Qui a fait si pas de gros changement qui fait dans l'économie? Hein. Nous avons observé une variation de taux de changement qui est aussi important. On a deux questions à te poser. Est-ce que son bagage a pris pour longtemps? Et si nous n'avons pas prêté pour longtemps, est-ce que nous attendons à ce que nous allons recommencer à monter encore? Et de fait, ça nous rend compte, c'est que déjà, le temps recommence à monter et il passe déjà de 60 gouttes à, là, nous avons approché de 73 gouttes du marché formel là, nous parlons dans le banque. Mais le premier problème du gouvernement banque, c'est qu'on n'a pas assez de dollars achetés dans la banque là, date de 73 gouttes là. Il veut dire que c'est 100 dollars acheté à prix ça. Mais si vous achetez 1000 dollars, on y a là. Maintenant, même le bac, ça, son bagage qui presque avoisine 80 gouttes. Et qu'on y a sous-sauté dehors, même pour t'avoir l'acheter dehors, ou à l'église de dépasser 90 gouttes. Donc, bon problème de disponibilité du dollar américain qui est très grave dans le pays. Hein. Et c'est parce que le problème de disponibilité, ça, qu'il faut prendre le dirigeant et décider que souvent, on a 100 dollars pour un monde en Haïti. Je disais, c'est un goût de balai, parce que, à un certain moment, même si on a voulu balai dans le dollar, il n'y a pas besoin d'assez de dollars disponibles. Justement. Donc, dans l'ensemble, on a dit que si nous combinons assez rapidement deux interventions, deux autorités, ça, c'est ça qui est globalement discuté avec peut-être plus de détails dans l'émission, c'est des émissions quand même depuis d'une heure de temps. Mais dans l'ensemble, c'est ça qui était point saillant pour l'année 2021 en Haïti et qui quittait peut-être des interrogations, des préoccupations pour l'année 2021 dans le niveau économie en Haïti.
Alors, si nous faisons un petit retour en arrière, on a pour en 2018 à 2019, toujours le rapport de M. Baden et Goud là, il était à 94 goud pour 1 dollar américain.
Oui, ça fait longtemps que j'ai commencé l'année c'était probablement en octobre 2019, parce que c'est pas l'année fiscale en Haïti. On a commencé en octobre 2019, c'était le fini le 30 septembre 2020. Donc, on était commencé année en octobre 2019 avec 94 gouttes. Et on était plus ou moins été stable au début de l'année, jusqu'à l'heure où on arrivait en avril. Et puis, brusquement, gouttes ont commencé à déprécier à 5 ans. On va le passer, qui va le faire que on commence à 94 gouttes. Et on va arriver dans le mois de juillet, août. Quand on parle de 123 gouttes, donc de 94 gouttes à 123 gouttes, c'est quasiment 20 gouttes en très peu de temps, en à peine donc, peut-être 6-8 mois, où il y a besoin 20 gouttes de plus pour acheter un dollar, 20 gouttes de plus, ça veut dire, dans le pays, quand on pile dans bien, au service, à 20 dollars, on a pleuré 40 dollars, on entre dans le restaurant, ouais, prix affiché en dollars, on entre dans le magasin, prix affiché en dollars. Donc, combien c'est pour chaque dollar, besoin 20 gouttes en plus. Mais c'est comment c'est venu catastrophique pour mon yon, d'autant plus que mon yon touche en goutte, en fait. Donc, quelque part, mon yon, la majorité de mon yon est venu plus pauvre avec la situation. Ça. Et c'est ça que fait-il, là, mon yon est content tout. L'aile commence à baisser et l'aile a passé, par exemple, de l'aile vini a passé à 60 gouttes là. Mais comme il y a tout le monde qui souhaite tout, que non seulement il était à 60 gouttes, nous avons discuté de ça dans l'émission, hein, mais en plus, nous avons souhaité tout que notre prix va diminuer dans l'économie parce que tout le change a été diminué. Le gouverneur a dit dans l'étude que le fait dans le banque là, le taux de change a augmenté de 10%, inflation, niveau prix en général dans l'économie, hein, augmenté de 8,2%. Donc, c'est quasiment de façon professionnelle, les prix ont augmenté, le taux de change a augmenté. Donc, ça a été fait. Tout le monde pensait que le taux de change a diminué et tout, que le prix a diminué. Malheureusement, ce n'est pas ça que nous observons, en fait, malheureusement. Et en plus de ça, nous n'avons pas observé que le prix n'a pas diminué autant, mais de là, le taux de change a recommencé à augmenter. Donc, à la minute que taux de change a recommencé à augmenter, donc, l'inflation a recommencé à augmenter encore. Et ça, c'est une grande préoccupation que nous avons pour tout le monde dans le pays, pour l'année 2021, justement.
Alors, nous voyons que le gouverneur de la banque a montré, en fait, que l'été gagnait de grands défis à relever. Et nous avons parlé de défis conjoncturels et structurels également. On a parlé de pays locaux, on a parlé de COVID-19, et il n'y a pas de jambes fermées. Il était toujours continué à travailler.
Oui, et ça, c'est peut-être. Alors, vous imaginez, nous mentionnons ça dans le texte, surtout qu'on a un pays qui est tellement fragile que même pour une institution aussi prestigieuse qu'un banque centrale, juste le fait que le carré était ouvert seulement pendant l'année, il estimait que c'était déjà un exploit. Et de fait, en pile business, t'es obligé de fermer pendant la période de l'occio. Et il y a un pile qui était fermé tout. Bon, il y a un pile qui était, ça a été brûlé, donc, qui, sauf même des limites qui étaient gagnées dans le matin de l'année, il était brûlé, il faut que j'en refait, vraiment. Donc, c'est pour montrer quel niveau de vulnérabilité il y a, quel niveau d'insécurité. Et dans un contexte comme ça, malheureusement, ce n'est pas un contexte qui facilite ou qui encourage le monde à créer des business, parce que on n'a pas envie de se taper un truc comme il y a là, dans le fond de retraite ou du fond de business avec le Naïto, parce que c'est du jour au lendemain, pour quelle que soit la raison, on a décidé d'appliquer du fait là-dedans, en fait.
Alors, en passant, il faut que l'on dise que le pays a traversé une situation quand même assez difficile quand même.
Mais c'est ça qui peut être le défi structurel que le gouvernement a parlé de nous. Par exemple, aujourd'hui, là, et en fait, dans la semaine, ça, c'est jeudi, il y a un décret qui est publié, un décret côté des calendriers électoraux qui publié, évidemment, le président Jovenel Moïse dit tout qu'il peut le faire, qu'il j'aimerais le faire, oui, c'est
encore,
il va changer la constitution. Mais, alors, ou qu'on se prouve en Haïti qui dit bien compté, mal calculé, apparemment, il y a un pile bagaille que le président bien compté, mais nous ne voyons pas si bien calculé. L'un du bien calculé, c'est parce que en Haïti, surtout l'on a une minorité opposée, les gens qui ont un créole, t'as coupé ma café, et puis c'est retiré, t'es conseillé pour tout le bagage, t'es à chauffer d'un coup. Et ça, c'est peut-être un risque qui vient à mes sens, un risque politique qui est énorme. Parce que le président Jovenel fait tout le temps, il va jamais faire élection pour ni député, ni maire, ni sénateur. Et année ça, lui, dit son année électorale, mais nous pouvons pas dire que ça va le passer. Et si ça peut passer bien, si ça peut passer non. Si Janou et Américain ont fait même ça que passe le capitole là, jeudi. Si nous attendons à ce que même.